Bienvenue sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Selim Niederhofer. On va parler copywriting et intelligence artificielle. Selim, vous le connaissez sans doute, Selim Niederhofer, c'est vraiment l'un des meilleurs copywriters français, l'un des plus connus. Et il publie un nouvel ouvrage, c'est-à-dire la deuxième édition de son livre Le Guide du Copywriting aux éditions Erol. Alors j'ai eu le plaisir d'échanger avec Selim, de l'inviter dans le podcast de l'empreinte digitale. Et on a donc parlé à la fois de son actualité avec la sortie de son ouvrage, mais aussi de tout ce qui tournait autour du copywriting à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment l'IA a bousculé les règles du jeu et quelle est la place de l'humain aujourd'hui dans un monde où les machines et notamment l'intelligence artificielle écrivent de mieux en mieux. Alors je vous laisse avec Selim, on a échangé pendant une quarantaine de minutes, c'est absolument passionnant, je vous laisse découvrir cette interview à présent. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et j'ai le plaisir d'être avec Selim. Salut Selim.
Salut Fabrice, tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Écoute, je vais très très bien, je suis sur-énergisé, sur-vitaminé, parce que ça fait 3 jours que je suis vraiment dans le lancement à fond du guide du copywriting nouvelle édition, donc je bois trop de café, je dors pas assez, et je mange plein de fruits, et je suis debout, là je suis sur mon bureau debout, donc ça va vraiment très très bien, je suis super content.
Bon, merci pour le temps que tu m'accordes en tout cas, parce que je sais que tu as un lancement un peu full. Je vois passer tous tes posts, je vois passer tous tes emails. Tu es vraiment à fond pour le lancement donc de la deuxième édition du guide du copywriting.
Oui, complètement. Mais c'est le but, tu sais, un lancement, en fait, là, il est numéro 1 des ventes depuis hier. Et c'est toujours l'objectif, parce que le lancement, c'est vraiment un moment qui est déterminant pour la vie d'un projet, parce que tu envoies un énorme signal. Il faut être vu partout, il faut qu'on parle de toi, il faut réaliser des ventes. C'est bien pour la perception du public, mais aussi c'est bon pour la perception des vendeurs, c'est-à-dire les libraires et la Fnac et Cultura et Amazon et les libraires indépendants, parce que plus tu fais un démarrage fort, plus ils vont t'accorder d'espace sur les étagères. Tu vois, chaque semaine, il y a des nouveaux bouquins qui arrivent. Bon, on est tous traités un peu pareil, mais si je réussis bien ma première semaine, c'est comme un film au cinéma, c'est comme un album, c'est comme n'importe quelle œuvre. Si tu sais que le film, il a fait une première semaine de fou, tu vas lui donner plus de salles en deuxième semaine. Eh bien, c'est un peu l'objectif. Pareil, réussir un bon lancement sur un livre, tout donner pour que la semaine prochaine, eh bien, peut-être que je puisse conserver ma place parmi les nouveautés, tu vois, plutôt que d'être effacé par une nouvelle nouveauté. Mmh. C'est pour ça qu'un lancement, il faut vraiment prévoir de la full concentration dessus et beaucoup de temps.
Alors, t'as de l'expérience maintenant, parce que le premier, il est sorti, t'avais cartonné, hein. Le premier, tu l'as vendu à combien d'exemplaires ?
Le premier, il a passé la barre des 15 000 exemplaires au mois de juin ou juillet. Donc 15 000 exemplaires, si tu veux, c'est forcément, quand tu compares aux chiffres du Goncourt, tu dis mais c'est nullissime. Non, non, là on parle de livre business. Ouais, un livre business, niche. En France, il se vend en moyenne à 2 000-2 500 exemplaires. Une maison d'édition, elle est à l'équilibre financier quand elle vend 2 500 exemplaires. Là, j'ai eu la chance, j'ai passé la barre des 5 000, puis des 10 000, là on est à 15 000. Et pour la première édition, ce sera probablement la fin, parce que maintenant qu'il y a la nouvelle édition, il n'y a plus vraiment d'intérêt à acheter la première.
Alors moi, je l'ai lu, le premier, on avait fait un podcast ensemble déjà, il était vraiment excellent déjà. Et comment t'expliques ce chiffre ? Parce que t'es quand même sur une niche, comme tu dis. Qu'est-ce qui explique pour toi que t'as tapé la barre des 5, 10, 15, t'as réussi à les franchir ?
Je te dirais qu'il y a vraiment trois composantes à ce succès du guide du copywriting. La première, en toute modestie, c'est le timing. Parce qu'au moment où il est sorti, on était en mars 2021, je ne sais plus si on entrait ou si on sortait du troisième confinement, mais c'était un moment où les gens commençaient à en avoir ras-le-bol. On avait déjà été confinés 2 fois dans l'année 2020 et ils nous ont remis 1 mois. Mars 2021, beaucoup de gens qui pensaient à changer de vie, beaucoup de gens qui en avaient marre d'être serveur, d'être prof, qui réfléchissaient à vendre des trucs en ligne. Et j'avais beaucoup de concurrents qui étaient en ligne, mais qui n'étaient pas du tout. Donc, le timing, très très bon timing, beaucoup de chance. Deuxième point, j'étais seul sur les étagères, parce que tous les gens qui font du copywriting, qui enseignent le copywriting, ils sont en ligne, parce qu'un copywriter, il aime la thune et l'argent, il le fait en ligne. Moi, quand je vends un livre, je gagne sur un livre à 22 euros, je gagne 2,20 euros. C'est nullissime. Quand tu es copywriter, que tu aimes l'argent, tu ne veux pas sortir un livre dans une maison d'édition sérieuse et respectée. Non, non, tu veux gagner vraiment toi, donc tu sors en auto-édition. Donc, j'étais vraiment le seul dans les librairies en français parce que toutes les références, elles n'étaient uniquement qu'en anglais. Or, nous sommes français, nous parlons donc généralement mal anglais et pour éduquer tout le monde, il fallait un bouquin en français. Donc, je suis arrivé bon timing, seul sur le marché. Avec ça, tu as déjà fait quand même 80% du travail et la qualité. Troisième point quand même, là pour le coup, pas modeste du tout, mais il est bon parce que j'avais compilé dedans toutes mes lectures de l'époque en me disant « Attends, si tu réapprenais, j'avais commencé en 2010, donc j'en étais à 10 ans d'expérience. Je savais déjà 2-3 trucs, j'avais lu plein de bouquins qui étaient tous en anglais. Allez, viens, tu mets tout ça dans l'ordre pour aider les débutants, les e-commerçants, les gens qui lancent leur marque, les apprentis copywriters, tous les marketeurs, tous les collaborateurs des services marketing qui sont chargés d'écrire au quotidien. Tu leur fais un truc simple à digérer avec de la vraie info, un vrai mode d'emploi. Et donc, ces trois facteurs-là, ça fait que ça a bien marché parce que les deux autres livres physiques sur le marché, ils sont arrivés seulement un an après. C'était pas tout de suite, donc j'étais vraiment, vraiment seul. Chance.
Ouais, et puis souvent, dans le digital, c'est ça aussi. Enfin, là, on est dans le monde physique avec les livres, mais le premier arrivé, premier servi, c'est la stratégie d'Amazon, c'est la stratégie de Boursorama et tout. Ils ont été les premiers sur le marché, donc ils ont pris tout le gâteau. Les autres qui arrivent après, c'est obligatoirement des suiveurs. Si tu as pris beaucoup d'avance, c'est quand même difficile de te rattraper après, quoi.
Oui, sur les ventes. Après, en ligne, tu vois, je sais que il y a des autres formateurs en copywriting qui vendent beaucoup leur formation, mais ils sont invisibles. Tu ne les trouveras pas à la Fnac ou chez Cultura ou chez Leclerc.
Ouais. La force du livre, hein, c'est vrai qu'en termes de personal branding, ça crée de la. Ça, tu fais figure d'autorité automatiquement. On pense copywriting. Si on s'est un peu renseigné sur le sujet, on pense à toi.
Oui, bien sûr. Mais c'est aussi la stratégie, parce que c'est dur d'écrire un livre. Ça prend du temps, c'est pas évident. Il faut le défendre. Et puis, moi, c'est surtout l'objectif, vu que je fais beaucoup de formations en entreprise. Un directeur marketing ou un DRH ou un directeur commercial, bon, quand tu arrives avec un livre que tu poses sur la table, ça fait un autre effet que poser ta carte de visite. C'est bien la carte de visite, ok, c'est très bien. Mais quand tu peux en plus leur offrir et leur signer le livre, il y a autre chose.
C'est clair, c'est clair. Alors du coup, tu as voulu en remettre une couche. Donc, 4 ans plus tard, nouvelle édition, le guide de copywriting. Alors, tu gardes quand même les bases, David Ogilvy, Eugène Schwartz et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, il y a besoin de faire une V2 ?
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est, je ne sais pas où tu étais en novembre 2022, mais je crois qu'on l'a tous senti passer.
Oui, il y a un truc qui est arrivé.
Il y a un truc qui est arrivé, là, une espèce de météorite, ChatGPT. Oh là là, ça va faire mal, ça va tuer des dinosaures, ça. Okay, ouais. Donc, il a continué de se vendre quand même. Il continuait de se vendre, le livre. Mais au fur et à mesure, donc moi j'ai créé des formations, écrire avec l'IA, écrire mieux avec ChatGPT, etc. Mais là, il fallait vraiment mettre le bouquin à jour pour qu'il reste la référence. Et pour que le terme, qu'est-ce qu'on cherche là-dessus ? On cherche vraiment copywriting IA. C'est ça qu'on veut comme mot-clé. Là, on pense en termes de SEO, de se dire, t'es à l'ère de ChatGPT, tu vas devoir parler de copywriting IA. Donc, j'ai juste rajouté stratégie IA dans le titre, pour que quand même Amazon y comprenne un petit peu. Et là, l'objectif, ça va être vraiment de parler de ça. Copywriting IA, comment je le mets en avant. Donc, j'ai réécrit le bouquin et c'est vraiment de la réécriture. C'est horrible. C'est horrible. Tu penses qu'il faut juste mettre à jour, genre, ouais, je vais rajouter 2-3 chapitres, mais pas du tout. En fait, tu es obligé de relire tout le livre, voir ce qui est encore valable, plein de choses, voir ce qui était quand même un petit peu trop long. Ouais, j'avais mis 3 exemples. Allez, viens, 2, c'est suffisant. Tu retravailles tout. Et puis, une fois que tu as enlevé tout ça, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter ? Et c'est là que ça devient intéressant. Déjà, il y a toute l'IA. Okay, donc, un chapitre entier dédié vraiment au copywriting et IA. Deuxième point que je n'avais pas traité, copywriting et réseaux sociaux. Ultra intéressant aussi, d'accord ? Troisième point, en fait, en 5 ans, là, en 4 ans, okay, je l'ai écrit en 2020, il est sorti en 2021, et là, j'ai réécrit cet été, donc on a vraiment eu 5 ans qui sont passés.
C'est beaucoup.
En 5 ans, moi, j'ai bossé pour énormément de groupes, j'ai bossé pour beaucoup d'entreprises, j'ai appris encore plein de situations, donc hop, je prends et j'injecte toute cette expérience dans la nouvelle version. Et surtout, en 5 ans, avant j'étais que copywriter, maintenant je suis aussi formateur en copywriting depuis 5 ans. Et donc, ça me permet, je suis au contact de mes clients tous les jours, et le mardi midi, on fait copy lunch, et le jeudi soir, on a copy night. C'est des lives visio avec tout le monde, ce qui me permet en fait, tu vois, toutes les semaines de prendre des questions de débutants ou de copywriters intermédiaires en me disant « Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça ». Tu sais, ça évite un peu le syndrome de la politique, des politiques qui sont déconnectées du terrain. Non, non, moi le terrain, je continue d'écrire et j'écoute tous mes débutants. Et en fait, tu vois, toute cette matière-là, j'ai tout injecté pour que ce soit encore plus concret et que ce soit plus 2025. Tu vois, et puis après, il faut avouer aussi que j'avais fait un oubli ou deux, des oublis majeurs. Donc, j'ai corrigé ça. J'ai ajouté des notions essentielles en marketing.
Ouais, alors ça, c'est une base aussi, c'est un principe de base des copywriters de dire écoutez vos clients, voilà, répondez aux questions qui sont fréquemment posées, parce que nous, c'est vrai qu'on est entre guillemets des experts ou du moins des spécialistes, ou du moins on est habitué à une thématique, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Et là, confronté à tes étudiants, tu as dû te rendre compte que, ou tes chefs d'entreprise, ouais, il y a des points qui sont apparus auxquels tu n'avais pas pensé, quoi.
Mais bien sûr, parce que. En fait, c'est ça qui est vraiment bien dans l'expertise. C'est ça que j'aime bien dans le travail de consultant aussi. Tu vois, moi, j'ai commencé ma carrière. Au début, j'étais consultant. Mais consultant de quoi? J'avais 23 ans, je connaissais rien. C'est dur d'amener mon expérience vers d'autres clients. En fait, plus tu vois de clients et plus tu apprends. Moi, j'ai eu la chance de bosser pour Velux, pour Sodebo, pour Wilkinson, pour Boss, pour Glassdoor, pour Armani, pour Léon Gross. Je suis allé faire de la formation chez Orange, chez Decathlon. Donc en fait, à chaque fois, tu apprends et tu mets les mains dans de nouvelles configurations. Officiellement, c'est la même thématique, mais ce qu'ils te demandent et les défis auxquels ils sont confrontés, c'est génial. Et tout ça, eh ben, comment t'écris dans le BTP ou comment t'écris quand t'es Decathlon ou comment t'écris quand t'es dans le recrutement ou dans les tailleurs sur mesure pour hommes, les costumes sur mesure, c'est pas du tout la même chose. C'est fascinant. Moi, j'adore. Et c'est là-dessus que tu bâtis en fait une expertise.
Ouais. Et ça, justement, l'IA, qu'est-ce que ça rabat comme carte dans le copywriting? Alors, le fond, les techniques de copywriting, elles, j'imagine, elles ne bougent pas. L'IA, c'est quoi? C'est un outil qui va t'aider à mieux rédiger, plus facilement, plus rapidement. Comment tu le recommandes, toi?
Alors, écoute, moi, j'essaye toujours au début de réfléchir avec mon cerveau. J'ai toujours stylo papier, là, juste à côté. Je pose mes idées. Je peux écrire un peu un début de plan, imaginons pour un article, tu vois, article ou interview. Tiens, j'écrirais bien ça, 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 ça. Ensuite, je vais suivre le modèle contexte. Ok, donc top, voilà le contexte, voilà qui est la personne, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà l'objectif, voilà la cible du contenu. Qu'est-ce que j'ai oublié? Comment t'aborderais le problème? Quelles sont les choses les plus évidentes auxquelles j'ai pas pensé? Quelles sont les choses les moins évidentes? Genre le truc vraiment du 1% auquel personne ne pense jamais. Juge-moi durement à quel point mon plan est débile. Vas-y, sois dur avec moi, je veux que ce soit solide. D'accord ? Et je vais vraiment le prendre comme un tuteur qui a beaucoup plus d'idées, qui a toute la connaissance du monde, en fait. J'ai bâti exprès un petit GPT que j'ai nourri avec tous mes livres, tous mes articles, tout ce que je savais. On a parlé, on a échangé. Je lui ai donné aussi à lire beaucoup d'autres livres et c'est fascinant. C'est fascinant. Si vous voulez le tenter, c'est un petit GPT qui s'appelle Selaim. Au lieu d'écrire Selim, S-E-L-I-M, tu rajoutes un A, Selaim.
Ah, okay. Voilà.
Et donc lui, c'est un GPT spécialisé dans le copywriting. C'est fou. Il te fait des trucs de fou. Donc moi, je m'en sers surtout pour du repurposing. Tu vois, j'ai déjà écrit des contenus. Okay. Ok, tiens, reprends ça, décline-le-moi avec tel ton pour LinkedIn. Pour du recyclage, là, je trouve qu'il me fait gagner plutôt pas mal de temps.
Est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne serait pas un expert comme toi du copywriting, est-ce que juste avec ChatGPT, ça suffit ou il faut quand même un peu de base pour justement bien le prompter, lui poser les bonnes questions? Ou est-ce qu'il est capable d'autonome de tout faire?
Tu viens de dire un mot qui est hyper important. J'avais lu un article il y a très longtemps, je n'avais pas aimé d'ailleurs, c'était sur le good enough management. Ouais, c'est assez bien. Là, tu as dit, est-ce que ça suffit? Oui, ça suffit, mais tu vas sortir une page de vente mollassonne et pas forcément super humaine. ChatGPT bosse très bien, Claude bosse très bien, Perplexity, pareil, ils te sortent des trucs qui sont balèzes. Et mieux tu promptes, meilleure est la réponse, bien évidemment. Mais en fait, pour bien prompter, et c'est là que ça devient intéressant, la notion de copy-stratégie, c'est OK, mais est-ce que tu connais le marketing? Est-ce que tu connais les principes d'influence? Est-ce que tu connais les biais cognitifs? Est-ce que tu as des bases en comportement consommateur? Parce qu'en fait, c'est comme quand on dit, bon, ben voilà, tu peux pas trouver si tu ne sais pas ce que tu cherches. Mais il faut lui demander. Il faut lui demander, voilà, je cherche vraiment ceci, cela. Mais ça, il faut déjà le savoir. Il faut déjà l'avoir lu dans des livres ou suivi dans des formations. Ou le demander à ChatGPT. Et c'est là que ça devient une autre mécanique vraiment d'interview, de sparring partner, où tu lui poses des questions et tu deviens vraiment plus intelligent. Surtout si tu as de l'expertise, que tu as déjà vu des clients. Donc toi, tu vas amener en fait ton humanité. Lui, il peut amener la structure. Toi, tu amènes les situations vraiment vécues.
Et du coup, qu'est-ce que tu as mis dans le livre? Alors, qu'est-ce que sur les paragraphes, les chapitres que tu as ajoutés sur l'IA, c'est quoi l'intérêt pour un lecteur justement d'avoir accès à ce que tu lui partages?
D'avoir les bases de la réflexion stratégique, parce que il y a des bouquins qui existent hein, vraiment sur purement comment prompter. Il y a énormément de formations en ligne sur comment prompter. Et à chaque fois, les prompts, ils sont à rallonge et tout. Là, moi, j'en ai sorti une. Et il y a une de mes clientes qui m'a dit, Selim, j'en ai déjà acheté d'autres chez des experts IA. Moi, je prétends pas être expert IA. Je suis copywriter, formateur en copywriting. Et l'IA est un outil parmi d'autres, on va dire. Mais il est important de le maîtriser. Elle m'a dit, en fait, par rapport à l'expert, ton approche, elle m'a décomplexé. Je n'ai pas besoin d'envoyer des prompts de 50 lignes pour que ce soit bon. Et c'est ça l'objectif pour moi, d'essayer de transmettre pour des débutants ou des niveaux intermédiaires quelque chose qui va te générer déjà 80-90% de bon. Et après, ben, quand tu es excellent, tu affines ton prompt et tu vas affiner les résultats donné par ChatGPT. Donc ce que j'ai ajouté, c'est vraiment ça, c'est de la méthodologie et de la réflexion. Surtout ça, parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu cliché quand on dit « Ouais, le plus important, ce sont les questions. » Mais c'est vrai, le plus important, ce sont les questions que tu te poses et que tu vas poser à la machine.
Ouais, alors j'ai pris, pour l'anecdote, j'ai pris aussi une formation d'un très grand expert sur l'IA qu'on voit partout sur Instagram et tout. Alors c'est vrai, quand j'ai vu sa page de vente, il montrait quelques prompts vraiment costauds. Je me suis dit, ah, ils sont bien ces prompts, ça m'a donné envie. Et du coup, je l'ai prise, j'ai travaillé une page de vente avec ces prompts-là, des prompts à rallonge. Et franchement, j'ai été vachement déçu du résultat, quoi. Je me suis dit, le prompt, il est beau, il fait impression, mais en résultat, c'était super creux, quoi. J'avais une page de robot, quoi. Un robot qui parle à un humain et qui n'a pas compris comment on fonctionnait. Pas d'émotion, quoi.
C'est exactement ça. Et je pense que là-dessus, on a encore un avantage. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je pense que sur la créativité, on a encore un avantage. Sur l'émotion, on a encore un avantage. Et sur la connaissance, tout simplement, de nos clients, ils ne peuvent pas, t'as beau remplir des super prompts et tu racontes qui est ton avatar, ton persona, ça ne marchera quand même pas aussi correctement que toi qui as passé 2 jours entiers au téléphone avec tes clients. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait 2 journées entières, une demi-heure à chaque fois avec mes clients. Pourquoi t'es venu acheter ce truc, s'il te plaît? Et là, ils m'ont expliqué. Et pourquoi moi et pas un autre? Et avec quoi te différenciant? Et c'était quoi ta douleur au début? Et pourquoi c'était maintenant qu'il fallait que tu l'achètes? T'as des autres discussions.
Ouais, puis t'es dans le monde réel, quoi, effectivement, parce que l'IA, elle a pas d'expérience, elle sait pas ce que c'est qu'acheter ou vendre un produit, elle a pas d'émotion, elle a pas de sensibilité, donc le rendu, même si le prompt, il peut être très impressionnant, c'est quand même le rendu final qui compte, quoi. Est-ce que ça parle à un humain ou pas, quoi? Clairement. Voilà.
Ouais, je suis d'accord là-dessus. Moi, j'ai vraiment pas de... Là-dessus, je n'ai pas le besoin d'être le super expert des prompts. Non, non, non. Moi, je suis expert de la psychologie humaine. C'est tout. Ça me va très, très bien.
Selim, est-ce que justement tu parles de psychologie humaine, c'est super intéressant parce que le monde change vite, très vite, et notamment parce qu'il y a eu ces dernières années ChatGPT, TikTok, les iPhones et tout ça. T'es comme moi, t'as à peu près le même âge, t'es un petit peu plus jeune que moi, mais tu fais partie d'une génération qui a grandi avec le papier et le crayon à l'école. Ensuite, t'as lu des livres, etc., ce que fait pas forcément la nouvelle génération. Est-ce que tu vois des changements comportementaux, psychologiques parmi les internautes, les acteurs et tout, qui t'a, toi, obligé à adapter un peu ton copywriting pour être peut-être plus direct, attaquer à des angles différents, parce qu'on n'a plus la même capacité ou la même volonté de concentration qu'avant, par exemple.
Écoute, j'ai un laboratoire vivant à la maison sur la psychologie humaine. Ma femme ne consomme ouais. pas du tout comme moi. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps sur son téléphone. Elle travaille, hein, c'est pas okay. elle travaille. Elle a une entreprise qu'elle fait tourner et tout. Elle est tout le temps sur son téléphone. Moi, vu que j'ai des mauvais yeux, en plus, moi, je suis à l'aise sur mon ordinateur. Un téléphone, je fais pas de commerce là-dessus. Du coup, c'est elle qui me renseigne. Quand je vois tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle scrolle et tout. Récemment, j'ai vu un nouveau modèle mis en avant par Google sur le nouveau comportement consommateur qui s'appelle les 4S. Donc là, je vous invite à chercher 4S modèle comportement client parce que j'ai pas retenu exactement tout ce qu'il racontait. Mais le premier truc, c'est scroll. Scroll, évidemment, les gens ils passent leur journée à scroller et de temps à autre tu t'arrêtes. Et c'est pour ça qu'en fait, dans nos approches, dans nos nouveaux tunnels de vente, les réseaux sociaux sont si importants. Alors, je n'ai pas délaissé le SEO, qui est pour moi toujours quand même important, hein, le référencement naturel, mais dans ma stratégie pour 2026, je vais à nouveau accélérer sur les réseaux sociaux, Instagram principalement. Qu'est-ce qui a changé ? Oui, le temps d'attention. Aujourd'hui, quand tu regardes les études sur le taux de rétention des vidéos YouTube, la moyenne de rétention d'une vidéo YouTube, c'est 30 ou 40%. MrBeast, le meilleur au monde, ouais. le plus suivi, il est sur du 70% de taux de rétention. Les gens restent du début à la fin, 7 fois sur 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a du montage qui est cut,
dynamique.
Vraiment, toutes les 30 secondes, il se passe une dinguerie à l'écran. Ça va très, très vite. Nous, on a été quand même un peu éduqués à ça avec les clips, mais c'était ouais. juste sur les clips. Mais depuis que tu as TikTok, bam, 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 ça va trop vite. Et notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Vu que je suis jeune papa, ma fille, elle a 5 ans, je suis beaucoup de comptes de maman, tu vois, de parents. Ouais. Et c'était hier, ils expliquaient, j'ai vu, les gamins autrefois, nous, on avait des dessins animés qui étaient sur des plans quand même un peu fixes pendant 7-8 secondes. Ça te laissait le temps de comprendre les émotions, de comprendre l'histoire. Aujourd'hui, ils disent sur de la Pat Patrouille ou Gabi Chat, boum, ça bouge dans tous les sens. Tous les sens, 1-2 secondes, comme les clips. Ça va trop vite. Du coup, ils ont du mal à comprendre les émotions et ça les paralyse mentalement. Tu sors de là, t'es déréglé. Genre, vraiment, t'es violent. Tu sais pas pourquoi, mais ah, t'as du mal à te contrôler. Et en fait, on est un peu tous tombés dans ce scroll infini. On est là comme des robotés, tu commences à scroller. Moi, je regarde des vidéos de but, je regarde des mecs qui font de la muscu, je regarde des techniques de copywriting. Mon algorithme, il est débile. Je ouais. regarde des gens qui font des saltos arrière et qui font une chute de 30 mètres pour plonger, tu vois, que des gens Red Bull. Tu vois ouais, les vidéos un peu de Red Bull où tu es là, waouh, et je suis hypnotisé. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Allez, retourne travailler, va faire ton truc. Et en fait, c'est insidieux parce que tu es exposé à de la pub dans tous les sens. Et puis, au bout d'un moment, ah oui, je l'ai déjà vu, tu vas cliquer vraiment. C'est ça le but de la pub. T'en faire manger, manger, manger. Mmh. Et un jour, ah oui, je l'ai tellement vu. Ah oui, pourquoi j'essayerais pas ça? Très, très malin. Donc, dans nos comportements, je te dirais que l'expertise ne vaut plus autant que la célébrité. Ça fait des années hein, qu'on se plaint de ça. Il y avait eu des études sur Kim Kardashian, famous for being famous. Tu vois, en fait, plus tu es célèbre, plus tu as un pouvoir de vente qui est immense. Là, en Chine, il y a 2-3 jours, l'info, elle est tombée. Ils veulent faire quoi pour faire taire un peu tous les débilos, là juste les gens qui ont des diplômes, qui pourraient prendre la parole sur certains sujets. Ils réfléchissent à ça, évidemment, pour réduire la parole, pour que les gens ne se soient pas trop contre le gouvernement, on va dire. Mais c'est ultra intéressant de te dire, attends, imagine si tu peux restreindre les influenceurs santé, là, les gars qui disent de manger des trucs qu'ils ont inventés eux-mêmes. Et on laisse parler les docteurs. Mais ce serait de la dinguerie, des gens qui ont vraiment fait des vraies études, tu vois. Je trouverais ça fou. Donc, non, c'est ça, en fait, aujourd'hui, qu'il faut réussir à comprendre, c'est que tu as tes chances. Tout le monde a sa chance de réussir dans le digital avec un positionnement assez polarisant. Tu peux tout gagner.
C'est fou, hein, parce que c'est vrai qu'autrefois, pour avoir accès aux médias, si tu voulais passer à la télé, si tu voulais passer à la radio, si tu voulais passer dans le journal, bah, il fallait que tu sois une personnalité publique. Il fallait que tu t'appelles, je sais pas, Reine d'Angleterre, Lady Diana ou autre. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir son émission de radio. Bah, regarde, on est en train de faire un podcast. Sa chaîne télé, on est tous les deux sur YouTube. La presse, bah, tu l'as fait toi-même avec ton Instagram et toutes les publications que tu fais. Aujourd'hui, c'est une époque formidable. Hein, quand même, on a accès à la diffusion d'informations comme ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, le grand débat, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Est-ce que c'est pour faire du Kim Kardashian? J'ai rien contre elle. Qu'est-ce qu'on en fait?
Je crois qu'on va pas dans la bonne direction avec cette grande liberté. Tu vois, là, c'est une question que je me suis posée. Je ne sais pas si j'ai déjà envoyé cette newsletter. Je ne sais même plus où j'en suis. Mais on a eu Thibaut InShape qui a donné ses droits d'image à Sora. C'est-à-dire que tous les gens peuvent utiliser son image pour faire des deepfakes, pour le mettre dans toutes les situations possibles.
Okay.
En termes d'image, moi, je vois beaucoup de pubs tournées avec Paul Mirabel en prison. C'est un fake. Bernard Arnault qui te donne des conseils en investissement, c'est un fake. Et tout à l'heure, je lisais une étude, c'est des pubs qui tournent sur Meta, donc Facebook, Instagram. Je vois tourner ça sur Facebook et juste après, je vois une étude qui dit Facebook, 10% de son chiffre d'affaires vient des arnaques en ligne. Parce qu'en fait, ils laissent tourner, ils leur font juste payer plus cher le clic. Eux, ils continuent de prendre l'argent. C'est de la dinguerie. C'est de la folie furieuse. Mais écoute, tant qu'ils gagnent de l'argent, ils ne vont pas couper le robinet. Okay, ils vont dire « Ah, on ne savait pas ». Donc, je ne suis pas bien sûr que toute cette liberté d'expression pour tous, on l'utilise à bon escient. Je crois que c'est bien, mais est-ce qu'on l'utilise bien? Je ne suis pas sûr.
Ouais, tous les canaux sont... Enfin, il n'y a rien contre les canaux en eux-mêmes. Internet, c'est formidable. Le podcast, c'est formidable. YouTube, c'est formidable. Tout est formidable. Tout dépend de ce qu'on en fait, quoi. Est-ce qu'on l'utilise justement pour du vrai savoir de partage de connaissances ou est-ce que... On essaie de faire peut-être du fric facile à tout prix avec de l'arnaque ou des... Enfin bon, ça, on aurait 4 heures hein, s'il fallait refaire toute l'histoire de l'humanité et le cœur humain là-dessus. Et toi, concrètement, alors du coup, cette rétention, enfin cette capacité de concentration ultra réduite et tout, on est très à peur, génération TikTok, swipe et tout. Est-ce que tu penses que le copywriting aussi, du coup, doit s'adapter avec... comme tu disais tout à l'heure, Mr Beast, avec des cuts très... Allez, moins de 8 secondes, il se passe toujours un truc. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un email de vente, sur une page de vente... Faut que tu aies toujours un truc qui, bam, qui te relance.
Ou... Voilà. T'as compris. Ouais. C'est exactement ça. En fait, déjà, premier truc, c'est je vise quel public? Quand je m'adresse à du 50 ans et plus, normalement, il y a encore un peu de cerveau. D'accord? C'est pas complètement ruiné. Donc, là, on peut encore approcher certains formats un peu plus longs. Maintenant, si je vais écrire pour des plus jeunes, je vais réfléchir ma copie en termes, effectivement, de rythme. C'est hyper important la musicalité là-dessus, le rythme. Ouais. Et surtout, tu vas réfléchir ton texte toujours sur mobile. Okay, parce que nous, on l'écrit sur un clavier, sur un ordinateur, mais je le réfléchis en termes d'écran de mobile. Attends, est-ce que sur mon écran, là, dans les 20-30 premiers pourcents, est-ce que j'ai du gras? Est-ce que j'ai du soulignage? Est-ce que j'ai une image? Okay. Dans les 20-30 derniers pourcents, est-ce que j'ai du gras, de l'italique? Est-ce que j'ai un truc qui va les faire vibrer? Okay. Donc, on continue. C'est parti. Écran suivant. Okay, écran suivant. Et rebelote. Je veux pas de gros pavés qui demandent trop d'efforts. Il faut mettre de la respiration dans nos textes, de l'intérêt, des petits mots parfois. Attends, lis la suite, tu vas halluciner. Ok ? Même dans notre copywriting, c'est comme si on était un YouTuber sous acide. C'est vraiment fou, mais ça fonctionne.
Excellent, excellent. T'en parles justement dans le guide du copywriting, c'est des points que tu abordes dans ta nouvelle version.
Oui. Ça, c'est la partie qui s'appelle copy cosmetics. Comment tu fais pour maquiller une copie qui peut être très bien, mais un peu terne. Bon, ben comment je vais faire pour la pimper? Un peu de fard à paupières, un peu de truc sur les joues, un peu de rouge à lèvres. Ok. Mais c'est quoi les outils quand t'es copywriter? Tout ça, c'est dans le livre.
Donc, ce qui justifie bien, les amis, vous avez compris une mise à jour du livre de Selim, parce que le monde change tellement vite, il s'est passé que 4 ans, allez, 5 ans, entre le moment où tu as rédigé le premier et le moment où tu livres la deuxième copie. Mais comme tu le disais, je t'avais lancé volontairement au départ là-dessus, c'était entre les deux, il y a ChatGPT quand même. Il y a quand même le monde d'avant, le monde d'après. Hein.
Oui, t'es assez d'accord avec ça ? Je le pense vraiment. Mais alors, ce qui est intéressant quelque part aussi, c'est que On peut lire beaucoup d'articles sur le sujet là en ce moment. Bon, si tu veux survivre dans le futur, deviens plombier, deviens électricien.
Ouais.
Mais oui, évidemment, parce que ben, on aura toujours besoin d'eux, bien évidemment. Là, nous, je pense que 50% des mauvais copywriters peuvent être remplacés, bien évidemment, par des gens moyens qui vont apprendre un peu l'IA, qui vont apprendre ChatGPT et qui vont sortir des textes corrects. C'est pas exclu complètement. Donc, moi, je dirais, je reste optimiste, mais attention, je reste optimiste en bossant beaucoup pour pas être complètement dépassé. Ça a vraiment, vraiment, vraiment changé. Et surtout, la réflexion, pourquoi je reste connecté à tout ça, bah parce que je suis papa, j'ai une petite fille, et je me demande, quand tu lis tous les gars de la Silicon Valley qui te disent « je suis pas sûr que mes enfants ils feront des études, hein. Je suis pas sûr qu'ils vont aller faire des études, je pense qu'ils vont surtout apprendre à bien coder, bien prompter, même plus coder, ils disent même plus prompter ». Donc là, tu te dis « ah ouais, ok, mais est-ce que je suis un bon papa? Est-ce que je la prépare vraiment pour l'avenir? Ou est-ce que avec mes délires de lui faire lire des livres, je suis complètement has-been et je la prépare pour le 19e siècle ?» Tu vois? Il y a des grosses questions là, des vrais enjeux civilisationnels, on va dire.
Parce que c'est peut-être la première fois dans l'histoire, peut-être, hein, qu'il y a une technologie qui arrive, enfin une technique, et qui va finalement pas détruire les emplois les moins qualifiés. Auparavant, quand tu as eu la voiture, quand tu as eu la révolution industrielle et tout, les premiers qui ont pris cher, c'est qu'on s'est dit, pour faire simple, on va remplacer les employés dans les usines, on va mettre des robots, quoi. Donc,
ouais, bien sûr.
Bah, voilà, c'était pas les professions les plus, enfin les CSP+, professions intellectuellement supérieures et tout. Mm-hmm. Là, pour la première fois, peut-être, on a une technologie qui arrive. Et ceux qui vont le plus souffrir de ça, c'est justement les catégories intellectuellement supérieures, quoi. Tous les gens qui sont dans le droit, dans la fiscalité, dans la communication, tout ça, parce qu'on est challengé par un outil qui s'appelle l'IA. En revanche, si t'es boucher, poissonnier, livreur, coiffeur, opticien, t'as rien à craindre, quoi. T'as vraiment rien à craindre. Mais du coup, ça fait un changement civilisationnel et... Qu'est-ce qui peut faire que demain, voilà, quand tu te dis, toi, Selim, je suis copywriter, 50% vont peut-être avoir du mal à manger dans les prochaines années. On a sans doute des copywriters qui nous écoutent ou des gens qui sont sensibles à cette voie-là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi? Comment sortir demain? Comment faire partir des 50% qui ont encore une carte à jouer dans les prochaines années?
Il y a deux choses. Un, la formation, ok, maîtriser les outils. S'y intéresser, ça va demander du temps et le truc qui est vraiment différent en fait, c'est que avant l'apprentissage, la formation, t'apprenais un truc et ta compétence elle était valable 20 ans. Là aujourd'hui, ouais. Tu vas apprendre un truc et ta compétence elle va être valable 3 mois. Ça c'est méga dur à rentrer dans la tête de beaucoup de monde. C'est qu'on va devoir se former en permanence. Donc ça vraiment, il faut être prêt à ça. Deuxième point, c'est que ceux qui vont s'en sortir encore plus, c'est ceux qui vont cumuler un peu les compétences. Okay. Le spécialiste aujourd'hui, il peut effectivement se faire remplacer. Mais celui qui touche 80% de copywriting, 80% de marketing, 80% de branding, lui, tout à coup, il est plutôt préparé pour avoir un peu cette super casquette et apporter vraiment de la valeur encore à une entreprise. Donc, il y avait un bouquin génial là-dessus qui s'appelait Range, c'est-à-dire c'était le règne des spécialistes est mort, vive les généralistes. Okay. Range. R-A-N-G-E, ça fait partie des bouquins conseillés par Bill Gates. Et là-dessus, bah, on n'est pas tous d'accord. Parce que la spécialisation, vraiment, ça peut t'aider. Tu peux briller, tu es l'expert. Mais de l'autre côté, il y a aussi, ouais, mais quand tu es expert en banque, expert trader, là en ce moment, l'IA, tu as des gens, des boîtes qui sont en train de payer, chez Morgan Stanley, je crois, ouais. Ils payent les seniors pour former l'IA. C'est-à-dire que les seniors... Ils forment l'IA pour remplacer les jobs de juniors. Trop balèze.
Ouais,
tu scies la branche sur laquelle tu es assis.
Ouais,
c'est de la folie. Okay, c'est vraiment foufou. Donc, apprendre beaucoup. Et puis, le deuxième point, c'est qu'à mesure qu'on va avoir tous les mêmes compétences grâce à l'IA, ce qui va devenir important, c'est qui tu es, ta personnalité. Moi, aujourd'hui, je miserai beaucoup pour tous les salariés sur cette compétence qu'est la prise de parole en public, le public speaking. C'est ça qui va être important parce que la relation client, on va en avoir besoin encore plus. t'as pas envie d'interagir avec des machines. Hein. Moi, c'est horrible que ce soit la BNP, que ce soit Orange, n'importe quel service client automatisé, tous les chatbots, c'est toujours pourri parce que j'ai toujours un cas vraiment spécifique à moi-même où je me dis non, mais il y a rien dans la FAQ, je veux parler à un humain. Et je suis persuadé que les humains qui vont résoudre tes problèmes, eux, ils ont tout compris.
Donc, il reste encore une part d'humanité, Selim ?
Oui,
selon
oui,
toi,
oui. Complètement. Et puis, non, mais surtout, ça... surtout, tu sais, alors il y a un truc très rigolo. Enfin, très rigolo, non, pas trop, mais il y a quelques années, je me suis fait plagier une idée de livre. Tu vas dire, okay. Une idée de livre, tout le monde a pu avoir la même, je suis bien d'accord. Mais j'avais cette idée un peu, j'avais vu un film où, tu sais, l'humanité, elle a une puce sous le bras.
Ouais.
Et en fait, tout le monde est fiché pour des raisons de sécurité officiellement, bon, dictature mondiale et tout. Et t'as toujours un petit village rebelle qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est Astérix, mais niveau mondial. Mmh. Je crois vraiment que tu as des gens qui vont se rebeller, qui vont casser des choses. Je sais pas pourquoi, peut-être que j'ai trop regardé de science-fiction ou quoi, mais t'as des gens qui vont pas trop bien aimer ce qui se passe. Il y a beaucoup d'alertes chez les chercheurs. Il y a beaucoup d'appels à encadrer l'IA. Mmh. Le monsieur qui avait révélé la bulle des subprimes, là, il a dit quoi ? Il a dit, les gars, là, votre bulle de l'IA avec NVIDIA et OpenAI, ça va exploser. Préparez-vous. Okay ? Donc, il y a des signaux. On se dit, bon, c'est peut-être un passage. On va voir vers où on va. Mais je pense qu'il y aura de la rébellion dans cette histoire.
Ouais, faut voir un petit peu comment ça se passe. Tu vois, quand on disait il y a un petit instant que l'humanisation, etc., de la société, ça me rappelle, tu sais, quand vraiment Internet, l'informatique, est bien apparu il y a une vingtaine d'années, on a dit, oh là là, les conseillers bancaires en agence, les caissières dans les supermarchés, c'est le truc, c'est eux qui vont prendre cher tout de suite. Et puis, il y a eu un mouvement de résistance qui a fait que les gens ont dit, non, 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 mais nous, on n'a pas envie de déshumaniser le monde dans lequel on vit, on veut garder le contact avec la caissière, on veut garder le contact, etc. Mais quand même, on s'est rendu compte, peut-être le Covid aussi qui a mis un petit coup d'accélérateur à ça, bah qu'aujourd'hui, quand tu vas au supermarché, finalement, il reste souvent une caisse ou deux un peu humaine pour les gens qui ont un peu des gros caddies ou qui ont vraiment envie, mais le reste, c'est quand même des caisses automatiques. Alors, tu peux passer que 20 articles, d'accord, mais souvent, les gens ne font pas des gros caddies. Donc, tu passes ton petit truc, tu t'en vas. Et ce qu'on ne voulait pas, finalement, petit à petit, peut-être avec le Covid aussi, ça s'est imposé. Alors, est-ce que l'IA, ce sera la même chose ? Est-ce qu'il y aura ces mouvements de révolte où les gens diront « Jamais de la vie, on veut garder des caisses avec des caissières dessus ?» Réponse dans quoi ? 10 ans ? 5 ans ? 3 ans ?
Oui, peut-être, peut-être 5 à 10 ans, mais ça finira quand même par arriver. Et puis ouais. Surtout, faut pas oublier quand même qu'à la fin, c'est l'intérêt de l'être humain. C'est ça qui m'intéresse moi aussi dans le copywriting. Hein. C'est dans les années 60, Bill Bernbach, le fondateur de l'agence de pub DDB, il disait « Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme éternel, l'homme avec un H, d'accord ? Pas la tendance. » Et un mec qui a tout compris là-dedans, l'homme éternel, c'est Jeff Bezos. Il a fait quoi avec Amazon ? Il a fait plus vite, les gens ils veulent toujours plus vite. Il a fait moins cher, les gens ils veulent toujours moins cher. Il a fait plus de choix, les gens ils veulent toujours plus de choix. Tu as des mouvements un peu rebelles qui vont dire « Non, non, nous on est pour le slow delivery. On est pour le slow delivery, donc on veut pas la livraison le lendemain ou le jour même par des drones. »
Dans 3 mois.
Okay. Les gens, t'as besoin d'un truc, tu commandes, ouais. Il arrive, t'es super content. Ok.
Alors Selim, c'est vrai que on pourrait parler hein, pendant des heures sur la déshumanisation ou pas de la société, avec toujours plus de machines ou pas, mais ce qu'on peut être sûr, hein, ce qu'on peut affirmer déjà, c'est que nous, on va rester des humains quand même. Nous, on va pas bouger. Hein. Donc le copywriter,
écoute,
finalement...
franchement, je sais pas.
Ah,
non, mais c'est intéressant, tu vois. Moi, il y a des jours où je me dis vraiment, mais j'adorerais, mais mettez-moi une puce dans le cerveau, et dès que j'ai une idée, envoyez mail à Fabrice, boum, le truc, il part. Tu vois ? Et je te dis pas que je serais forcément contre. Il y a des moments où je me dis, mais ce serait complètement dinguissime. Donc je me dis qu'Elon Musk, il va vers une direction un peu folle. Est-ce que je le ferais pour moi ? Je sais pas trop. Je sais pas si on va rester complètement des humains. Il y a des gars qui font les Jeux Olympiques augmentés, là, tu sais. Enfin, les Jeux Olympiques du dopage.
Mmh.
Ils acceptent. Ils veulent pousser le corps humain le plus loin possible. Donc je sais pas vraiment ce qui va advenir. Mais bon, c'est toujours très rigolo à observer.
Alors, bon, on pourra dire qu'on sera des observateurs, hein, parce que nous, on sera là et on regardera tout ça avec attention. Donc, pour l'instant, malgré tout, encore dans un délai assez court, si vous êtes copywriter ou si vous vous intéressez à copywriting, dites-vous que pour l'instant, on vend encore à des consommateurs et pas des ordinateurs, et donc on a encore besoin de techniques comme le copywriting. D'où l'intérêt donc d'acheter le livre de Selim, la deuxième édition. Moi, j'avais la première qui était vraiment excellente et je vous l'aurais volontiers recommandée, mais je ne vous la recommanderai pas la première édition, je vous recommanderai maintenant directement la seconde. Hein. Où est-ce qu'on peut le trouver, Selim, le livre? Il est déjà dans les rayons?
Oui, il est dans les rayons, il est sorti hier, c'était jeudi 6 novembre 2025, donc il est disponible partout, dans les librairies indépendantes, chez Cultura, chez Leclerc, à la Fnac et aussi sur Amazon, et bien évidemment en version Kindle aussi. Ça démarre bien, ça démarre fort, je suis très 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 content, donc peut-être qu'il va s'installer pour les 2-3 ans à venir, mais quand tu as du succès, tu sais, j'avais trouvé des titres de plagiaires. Ils avaient repris à peu près le même titre, à peu près la même couverture. C'était très, très drôle. Donc, on va voir ce qui se passe dans les 2-3 années à venir pour le guide du copywriting.
J'ai vu ton post avec les copies qui étaient vraiment des fakes. C'était horrible. Ouais. Écoute, je vais mettre un lien tout en bas pour les personnes qui veulent le trouver sur Amazon, la Fnac ou autre. Je mettrai un lien directement. Selim, si tu devais, au pied du sapin de Noël, si on devait mettre ton livre à toi et que tu conseillerais trois autres livres à côté, ce serait lesquels? Si c'était toi qui faisais le paquet cadeau.
Écoute, alors si c'est moi qui fais les cadeaux, là je viens de le commander L'Empire. Donc L'Empire, c'est une enquête sur le milieu du rap et ses liens avec les malfrats, avec les malfaiteurs, avec la drogue, avec le crime organisé. Donc ça me chauffe bien un peu pour voir tout ça. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un livre sur la publicité aussi. Il y a le bouquin sur la pub de Thierry Ardisson que j'avais bien aimé. Ça, je le recommande pour ceux qui s'intéressent à la publicité, on va dire un peu d'autrefois, l'âge d'or, les années 80-90. Et puis, je suis en train de tourner, tu vois, autour, parce qu'en fait, c'est dur. Mais s'il y en a un seul, vraiment un seul à lire, sur ce qui fait les êtres humains, sur ce qui fait basculer la décision des êtres humains, influence et persuasion. Cialdini, c'était influence et manipulation, c'est devenu influence et persuasion. Il avait 6 principes de persuasion universelle, il en a rajouté un 7e, c'est fascinant. En fait, tu vois plus le monde de la même manière une fois que tu l'as lu, et tu réfléchis mieux, tu structures beaucoup mieux tes textes, tes interventions, ta réflexion. Je trouve ce bouquin vraiment fascinant.
Ouais, c'est un must-read, hein, vraiment, je l'ai lu aussi, évidemment. Et justement, le dernier levier, il fait un peu la bascule avec le monde d'aujourd'hui, justement, les nouveaux comportements et tout ça. C'est excellent.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, écoutez, vous aurez en tout cas le lien vers au moins le livre de Selim qui sera en bas du podcast. Alors, Selim, vous pouvez le retrouver aussi dans ses formations, parce que tu fais aussi des formations en ligne, hein, Selim.
Oui, bien sûr. Bah, sur le site, c'est les-mots-magiques.com, avec des tirets partout. Et dedans, oui, il y a des formations pour devenir copywriter, des formations spécifiques sur l'emailing, des formations spécifiques sur les pages de vente. On essaie de mettre tout ça à jour. Et là, bah, entre le moment où on enregistre et le moment où ce sera diffusé, imagine, vous êtes un an plus tard. Normalement, il y a 2 nouvelles formations, une sur la prospection et une sur le ghostwriting. Donc, on s'arrête jamais.
Eh bien, je vous mets les liens tout en bas, comme ça vous pourrez aller plus loin avec Selim si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup Selim pour cet échange. Merci d'avoir pris le temps.
C'est très gentil, Fabrice.
L'interview.
Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir écouté. Et si jamais vous lisez le guide du copywriting, donnez-moi votre avis. Je serai ravi de vous lire. Merci Fabrice.
Allez, merci à toi. Ciao Selim.